Alors en fait, j'avais à cœur de parler d'un thème qui entre-temps est devenu aussi un thème à l'Église, puisque je voulais parler de la compassion de Dieu. Et donc, on a eu un message, c'était dimanche, pas celui-là, mais celui d'avant, sur ce sujet. Mais je voulais vraiment qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire en pratique, le fait que Dieu a compassion de nous, parce qu'on l'entend souvent, c'est des versets qu'on connaît, et oui, c'était important pour moi que ça devienne quelque chose de plus que des mots, quelque chose de vraiment, vraiment réel. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par lire deux passages qui sont assez, assez bien connus. Et puis après, de là, on va partir de là. Donc on va commencer sans surprise pour les compassions de Dieu en Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Verset 21, on va commencer. Ouais, je vais lire en second. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bonté, c'est la même chose que compassion en hébreu. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et c'est ça qui me donne de l'espérance. Et puis aussi le verset qu'on connaît très bien en Romains 8, au verset 28. Parce qu'il n'y a pas le mot compassion dedans, mais c'est ce qui nous permet de comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. Donc Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc en réfléchissant à la signification du mot compassion, même en français, le mot compassion c'est compatir, c'est-à-dire patir c'est souffrir, et con c'est avec dans l'étymologie. Donc compassion ça vient du latin, et puis sympathie c'est l'autre mot qu'on a en français, qui veut dire la même chose mais qui vient du grec, c'est aussi souffrir avec. Donc déjà, compassion, ça veut dire souffrir avec. Et quand on souffre, il y a déjà deux choses qu'on peut se dire. La première, c'est ce qu'on a lu en Romains 8, verset 28. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et donc cette souffrance-là, elle en fait partie de ces choses que Dieu fait concourir pour notre bien. Donc ça, c'est la première partie de la vérité. C'est de savoir théologiquement que Dieu fait en sorte que les choses qui se produisent dans notre vie, même les douloureuses, ne soient pas au hasard, mais sont prévues pour notre bien. Mais après, cette partie-là reste difficile à vivre, même si on le sait. C'est difficile de passer de la connaissance intellectuelle de cette vérité au fait de se sentir encouragé et consolé par la vérité en question. Mais l'autre pendant qui va avec, c'est que c'est les compassions de Dieu qui sont avec nous, c'est-à-dire que Dieu littéralement souffre avec nous. C'est-à-dire quand on traverse une épreuve, non seulement Dieu ne la permet pas au hasard, il a un plan, il fait concourir les choses pour notre bien, mais quand on dit toutes ces choses-là, il peut rester extérieur à la situation et puis la faire tourner à notre bien. Mais c'est plus que ça. Il se met dans la situation avec nous et il souffre en même temps que nous. Et donc on va voir un petit peu à travers. Viens. À travers différents passages, différents exemples, comment on voit ça dans les Écritures. La première chose qu'on va regarder, c'est qu'en fait, cette vérité que Dieu souffre avec nous, ou s'identifie à nous, elle est vraie pour les trois personnes de la Trinité. Alors, pour le Père, déjà on sait dans la prière de Jésus à son Père en Jean 17, avant de partir, qu'il a dit à ses disciples, le Père lui-même vous aime. C'est-à-dire, c'est pas juste moi que vous connaissez et qui ai passé ces 3 ans avec vous qui vous aime, mais le Père vous aime. Le Père vous connaît, il vous aime. Et c'est valable aussi, bien sûr, pour chacun d'entre nous. C'est pas juste le Père est là-haut et puis nous, on a une relation avec Jésus, c'est plus simple, c'est à notre niveau. Non, le Père lui-même vous aime. Et puis ensuite, il y a des versets aussi dans les Écritures qui montrent de façon plus précise que Dieu souffre avec nous. Par exemple, ne les cherchez pas peut-être ceux-là, je vais juste vous les lire, sinon ça en ferait beaucoup. Au psaume 103, au verset 13, on lit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Donc l'Éternel souffre avec ceux qui le craignent, littéralement. En Ésaïe aussi, au chapitre 63 et au verset 9, ça parle d'Israël, mais c'est transposable pour nous. « Dans toute leur détresse, il a été en détresse. » Là, ça devient déjà plus précis. C'est vraiment, quand les siens sont en détresse, il est en détresse, littéralement. C'est pas juste, il a pitié d'eux, il pense à eux, il s'occupe d'eux. Non, il est en détresse. Il partage leur souffrance. Donc ça, c'est le Père. Le Saint-Esprit, pasteur en a parlé plusieurs fois, de ces versets qui disent que quand on pêche, ça met pas en colère le Saint-Esprit, mais ça l'attriste. Ça l'attriste. Donc il y a vraiment ce côté de souffrir avec nous, d'avoir de la peine pour nous. Et c'est ce que le Saint-Esprit ressent pour nous. Donc il y a les versets qui parlent d'attrister le Saint-Esprit, mais aussi, pareil, en Ésaïe 63, c'est-à-dire dans le même passage où on voyait le Père en disant « Dans toute leur détresse, il a été en détresse », si on lit le verset suivant, parlant d'Israël toujours, c'est « Ils se rebellèrent et ils attristèrent l'esprit de sa sainteté ». Donc les trois, le Père est attristé, le Père est en détresse parce que son peuple est en détresse, et l'esprit est attristé. C'est vraiment une participation à la souffrance de l'individu. Et alors le Père et le Saint-Esprit, il n'y a pas beaucoup de choses dans la parole, mais le Fils, alors là, pour le coup, on le voit tout au long de son ministère sur la terre. Alors le mot grec qui est dans la Bible pour compassion en général, dans les évangiles, c'est splanknizomai. Et splanknizomai, quand on fait de la médecine, on sait que splankna, c'est tout ce qui a rapport avec les viscères. Donc ça veut dire souffrir avec ce mot grec, c'est finalement ressentir la chose viscéralement, la ressentir dans ses tripes. Donc c'est ce mot-là qui est utilisé chaque fois qu'on voit dans les évangiles que Jésus a compassion des foules, qu'il a compassion d'un tel. À chaque fois c'est ça, c'est littéralement « j'en ai mal au ventre pour lui ». C'est vraiment à ce point identifié. Et donc on voit ça à plein de reprises, alors que ce soit envers des individus ou envers une foule, il y a les deux côtés. Je vais vous en lire quelques exemples. Par exemple, au chapitre 7 de l'évangile de Luc, au verset 13. Donc les disciples sont en chemin, ils sont près de la ville de Naïn. Et puis, alors qu'ils passent, on va commencer peut-être au verset 12, « Comme il approchait de la porte de la ville, on portait dehors un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et une foule considérable de la ville était avec elle. Et le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle, et lui dit, ne pleure pas. » Et je trouve que c'est beau que l'Écriture note ça, en fait, parce que l'Écriture aurait pu juste nous dire qu'il a fait un miracle, parce que finalement, c'est ça le sujet du passage. Mais c'est important qu'on voit le cœur de Dieu aussi pour nous à travers le passage. Avant de faire son miracle, et il aurait pu le faire tout de suite comme ça en arrivant, il y a vraiment ce que ça lui fait pour lui de voir cette femme souffrir. On a les détails dans le verset d'avant, donc on sait que c'est son fils unique, qu'elle est veuve. Donc voilà, pour elle, c'est toute sa vie qui s'écroule en fait, d'avoir perdu ce fils. Et on a l'impression en lisant le verset comme il est dit, que Jésus pèse vraiment ce que ça représente pour elle. Oui, il ressent vraiment ce que ça représente pour elle. Et puis après, il lui dit de ne pas pleurer. Donc, on sait qu'il va ressusciter ce mort. Mais voilà, la Bible prend la peine de nous dire d'abord ce que ça lui fait, en fait, de voir cette souffrance. Après, il y a Marthe et Marie, évidemment, à la mort de Lazare. On voit aussi comment Jésus est très ému, bouleversé par la mort de Lazare. Alors même qu'il sait qu'il va ressusciter. Donc on pourrait dire qu'il n'avait pas de raison d'être si bouleversé que ça, mais il est bouleversé juste de voir le chagrin de Marthe et Marie, de voir ce que ça représente pour elle, et puis aussi de voir ce que la mort fait comme conséquence du péché. Ça devait être aussi quelque chose de terrible pour lui, mais voilà, en tout cas il n'était pas indifférent, et le fait qu'il sache que ça fait partie d'un plan et qu'il y a quelque chose derrière, ça l'empêche pas sur le moment de souffrir avec la personne. Et ça, c'est un point vraiment important dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que dans les choses qu'on traverse, le fait que Dieu les ait permises et les ait permises parce qu'il a un plan pour nous, que ça nous plaise ou non et que ça fasse mal ou non, ça n'empêche pas que pendant qu'il les permet, ça le fait souffrir en fait. Il souffre pour nous, il souffre avec nous. Il le fait pas à la légère en fait, en d'autres termes, en se disant oui mais c'est pour son bien, il verra bien à la fin. Non, c'est pour son bien, c'est vrai, et donc je suis obligée de le faire. Mais quelque part, ça me brise le cœur de devoir le faire. Et ça, c'est important. Après, il y a aussi des choses où c'est peut-être pas écrit avec les termes compassion, mais pour moi, c'est vraiment du même domaine. C'est par exemple, on le voit dans un seul des évangiles, en Luc, quand Pierre a renié Jésus, donc pendant que Jésus était jugé chez Caïphe, je crois, il était dehors, Pierre, et donc il renie Jésus 3 fois près du feu, et le coq chante et il réalise ce qu'il a fait. Et moi, ça me touche beaucoup de voir ce que dit Luc, qui dit que Jésus, s'étant retourné, le regarda. Et j'imagine ça, c'est que Jésus, tout ce qu'il a dans la tête à ce moment-là, tout ce qui se passe déjà d'extérieur, la façon dont il est traité, la façon dont il est jugé, et puis il vient de vivre l'angoisse de Gethsémané, il sait ce qu'il attend, et pourtant il prend la peine de se retourner. C'est juste fou. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Je l'ai arrivé. Mais c'est juste fou pour moi de penser que, alors que Jésus était au moment de sa vie qui était probablement le plus difficile à vivre, et on le voit avec Gethsémané avant, il prend malgré tout le temps et la peine de se soucier de la tristesse de son disciple. Alors ensuite, on voit la même chose de la compassion de Jésus. Quand il parlait des foules ou à la nation, alors ça c'est des passages qu'on connaît bien, c'est quand Jésus... Merci, si on commence avec les mouchoirs, ça va être terrible. Je vais essayer de ne pas vous le faire larmoyant, promis.
C'est Luc 22:61.
Oui, c'est ça, Luc 22:61. Alors après, avec les foules, on le voit à plusieurs reprises. On le voit quand Jésus arrive devant la ville de Jérusalem et qu'il pleure sur la ville en lui disant « Si seulement tu avais écouté les prophètes, si seulement vous m'aviez écouté ». Et puis aussi, mais même aussi, parce que des fois on le voit comme ça pour les très grandes choses, mais même pour les petits détails du quotidien, quand Jésus était avec la foule depuis 3 jours, et qu'ils n'avaient pas mangé, etc. Et on lit « Jésus fut ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger ». Voilà, il n'était pas du tout indifférent à leurs besoins, même très, très matériels, très, très basiques. Et donc, et ayant vu que les 3 personnes de la Trinité étaient concernées, pour élargir un petit peu, donc le point important, c'est que Dieu n'est pas du tout indifférent à ce qui nous arrive. Il se soucie de nous, ça on le voit à de nombreuses reprises dans les Écritures, et pourtant c'est quelque chose dont on a du mal à se convaincre. On a toujours cette... comme toujours, on a des connaissances théologiques, intellectuelles de la parole, et pourtant quand on souffre, on a du mal à croire que Dieu se soucie de nous. On a l'impression qu'il a peut-être autre chose à faire, qu'il a des sujets plus importants à traiter, que nous, notre souci, qui n'est pas forcément grand d'un point de vue objectif, c'est pas si important pour lui. Et en fait, on a tort quand on pense ça. Et on voit plusieurs fois dans les Écritures des croyants qui ont eu ce sentiment ou cette impression. Par exemple, quand on voit les disciples dans la barque, qui avait la tempête et que Jésus dormait, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? C'est « Maître, tu ne te mets pas en peine, on est en train de périr et en gros tu t'en fiches ». Et combien de fois on peut avoir cette impression en fait, qu'on est dans quelque chose qui pour nous est un grand souci, quoi qu'il en soit de la réalité de la chose, et on a l'impression que Jésus dort. Et puis aussi pour des choses plus simples, Marthe dit la même chose à Jésus, « Ne te mets-tu pas en peine ?» que ma sœur m'aide pas, donc, et ça on le fait encore plus souvent avec Dieu, c'est pourquoi tu permets ça, pourquoi tu permets encore ça dans ma vie, et pourquoi tu fais pas quelque chose, on sait que tu peux faire quelque chose, pourquoi tu fais pas quelque chose? Et pourtant Jésus, au contraire, il se présente à nous justement comme quelqu'un qui se soucie de nous. Par exemple, quand il se présente comme le bon berger en Jean 10, en fait, justement, pour expliquer à ses disciples le souci qu'il a d'eux, il se compare à l'homme à gage ou au mercenaire, ça dépend des traductions, c'est-à-dire en gros le berger qui a été loué pour surveiller les brebis de quelqu'un d'autre, et qui, en gros, dès que le loup va arriver, a toutes les chances de s'en aller en courant parce que c'est pas ses brebis, et que même s'il est payé pour, ben ça donne des limites à son engagement. Et Jésus leur donne cet exemple en leur disant « Mais moi, c'est l'inverse ». Moi, vous êtes mes brebis, je me soucie de vous. Je connais les miens, ils me connaissent, etc. Donc Jésus se présente vraiment justement comme celui qui se soucie et qui est pas juste, qui gère pas juste les choses, mais qui se soucie de nous parce qu'on lui appartient. Et Dieu nous encourage d'ailleurs à lui apporter tous nos soucis. C'est le verset que vous connaissez certainement très bien, hein, 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et le prend soin, il prend soin de vous. J'ai regardé un petit peu ce que c'était en grec. C'est un mot qui s'écrit melei, M-E-L-E-I. Et ça veut dire se soucier, s'inquiéter, se mettre en peine, se sentir concerné, s'intéresser à. Bon, c'est l'anglais to care pour celles qui parlent anglais, parce que c'est vrai que ça décrit bien le. Mais imaginez tous ces mots à propos de Dieu. Se soucier de nous, se soucier, c'est peut-être un mot qu'on n'utilise plus tellement, alors on ne se rend pas très compte. S'inquiéter, avec toutes les limites, bien sûr, parce que Dieu ne s'inquiète pas dans le sens où il n'a pas peur qu'il se passe quelque chose de pas prévu derrière. Mais s'inquiéter dans le sens être concerné, s'intéresser à la personne. Voilà, c'est ça que ça signifie. Sachant ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et non seulement ça, mais aussi, on lit en Hébreux 2, verset 18, en parlant de Jésus, qu'il comprend ce qu'on traverse, puisque lui-même est passé par ces choses-là. Alors parfois on a du mal à se... Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, longtemps j'ai eu du mal à m'approprier ce verset, parce qu'il dit, alors je ne sais plus si c'est de la seconde ou de la dernière, ce que j'ai noté, « En ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. » C'est ça que vous avez comme...
Non.
Toi, t'as quoi ?
Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
D'accord. Bon, tout le monde a tenté, en tout cas, comme verbe. Ouais. Moi, c'est ça qui m'empêchait de bien comprendre ce verset, en fait. Parce que je ne voyais pas comment Jésus avait été tenté, vu qu'il était sans péché. Et voilà, c'était quelque chose qui était un peu difficile à comprendre pour moi. Et donc, j'ai voulu regarder exactement le sens de tenter. Pareil, le mot grec pour tenter. Donc, c'est perazo. Et c'est un mot qui peut être utilisé pour dire tenter, mais dans le sens de essayer, éprouver, mettre à l'épreuve. Et donc ce mot est utilisé pour parler du fait d'essayer d'éprouver la foi de quelqu'un, d'éprouver sa vertu, d'éprouver son caractère. Et dans le cas de Dieu, Dieu permet des choses difficiles, des souffrances, des épreuves dans nos vies pour prouver quelque part notre caractère, pour prouver que notre foi existe, qu'elle est solide, pour prouver qu'on a confiance en lui, ou pour nous faire grandir dans toutes ces choses-là. Et donc, si on reprend le verset d'Hébreux 2,18, mais en mettant éprouvé, déjà, je trouve ça a plus de sens. C'est en ce que Jésus a souffert lui-même étant éprouvé, il est à même de secourir ceux qui sont éprouvés. Et là, pour le coup, éprouvé, on l'est tous à un moment ou l'autre de notre vie, si c'est pas tout le temps à un niveau ou à un autre. Et donc, ce verset s'applique, c'est que Jésus peut comprendre ce qu'on traverse parce qu'il l'a traversé. Il a été éprouvé également pendant le temps qu'il a passé sur la terre. Donc évidemment, il y a plein d'exemples dans la parole. Job, on le connaît très bien, l'exemple. Il y a aussi l'exemple d'Abraham en Genèse 22, où il est dit clairement « Et Dieu éprouva Abraham ». Et puis les versets dans les psaumes aussi qui parlent du fait d'éprouver quelqu'un au creuset pour que l'or soit de plus en plus pur, en fait, d'enlever les impuretés pour qu'il reste un or de plus en plus pur. Mais le point qui m'intéresse dans tout ça, c'est que même quand Dieu nous afflige, c'est-à-dire que même quand c'est lui qui l'a décidé, parce que des fois on a l'impression que ce qui nous arrive de mal, ça vient du diable, et puis que ce qui nous arrive de bien, ça vient de Dieu. Et ça, c'est une vision un peu simpliste des choses, et d'autant plus, on le voit dans l'histoire de Job, que quand bien même ça viendrait du diable, si ça nous arrive, c'est que Dieu l'a permis. Donc de toute façon, on peut considérer que c'est Dieu qui envoie les choses qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, puisque rien ne se passe sans sa permission, rien ne se fait sans sa permission. Donc quand Dieu... Mais le point qui est important, c'est qu'il y a des moments où Dieu nous afflige, et il a différentes raisons de le faire. Ça peut être pour éprouver notre foi, ça peut être pour nous faire grandir, pour nous transformer de plus en plus à sa ressemblance, pour nous montrer un peu plus qui il est, parce que c'est vrai que c'est des moments où, dans l'épreuve, où en général, en fait, quand on est éprouvé, souvent, toutes les choses prennent leur place, c'est-à-dire toutes les choses qui sont tellement importantes dans notre vie de tous les jours, mais qui en fait sont des détails, tout d'un coup disparaissent complètement, comme si on les voyait plus, et c'est des moments que Dieu peut utiliser pour se révéler de manière plus personnelle, pour qu'on apprenne à le connaître mieux, donc ça peut être une autre raison. Mais quelles que soient ces raisons, Ce qui est important, c'est que Dieu a un but, il ne fait pas les choses au hasard, il y a vraiment un but dans ce qu'il nous fait traverser. Première chose, il a un but, c'est ce qu'on a lu Romains 8, 28, « toutes choses concourent ensemble pour notre bien, même les choses qui nous paraissent mauvaises. Non seulement il a un but, mais il dose l'épreuve. Il donne pas comme ça l'épreuve un peu au hasard, et puis un peu comme dans la, vous savez, comme dans la théorie de l'évolution. C'est on lance le test, et puis ceux qui survivent, ben, ils survivront, ça sera la race qui va rester, puis les autres, ben, ils ont été perdus en route. Non, Dieu, quand il envoie une épreuve, il la dose, il fait en sorte qu'on ait la capacité de la traverser. On lit ça, on va le lire en 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13. Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés. Donc là aussi, on peut mettre éprouvés. Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec l'épreuve, il fera aussi l'issue ou la sortie, afin que vous puissiez la supporter. Donc premièrement, quand Dieu nous fait traverser des épreuves, il y a un plan, il y a un but, c'est pas au hasard. Deuxièmement, c'est dosé, c'est-à-dire que Dieu sait très bien. Et alors des fois, on peut avoir cette réaction de dire, là c'est au-delà de ce que je peux supporter quand on est dedans. Mais il n'y a que Dieu qui sait ce qu'on peut supporter en fait, on se connaît très mal. On ne sait pas du tout, mais on a cette assurance parce qu'il nous l'a promis, parce que c'est dans sa parole, que lui qui sait tout n'ira pas trop loin en fait. Il ne dépassera pas notre capacité de résistance. Et troisièmement, et moi c'est ça qui me touche vraiment, c'est que même quand Dieu permet qu'on souffre parce qu'il sait que c'est nécessaire pour nous pour une raison ou pour une autre, il ne le fait pas par plaisir et il souffre d'avoir à le faire. Donc là j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que oui, Dieu, ça lui fait pas plaisir, et on le voit dans la façon dont il traite son peuple Israël, en fait. On voit dans toute la longueur de l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu a prévenu, si vous faites ça, il faudra que je vous juge, il l'a fait, mais ça lui a fait mal au cœur d'avoir à le faire, et il le dit je ne sais pas combien de fois, si j'aurais tellement aimé que vous choisissiez la vie et que j'ai pas à vous donner la mort. Mais sauf qu'il a eu à le faire. Et alors, dans le cas du peuple d'Israël, on parle de châtiment suite à un péché, mais même quand c'est pas un péché, même quand Dieu permet des souffrances dans nos vies qui n'ont rien à voir avec un péché, peut-être il les permet pour nous faire grandir, peut-être il les permet pour... simplement parce que pour que son plan s'accomplisse, il faut qu'on en passe par là. Mais il ne le fait pas à la légère. Il se rend compte de ce que ça représente pour nous, et il est quelque part malheureux pour nous. Il souffre avec nous, c'est ça, il compatit. Il souffre de devoir nous faire passer par là. Mais néanmoins, il le fait, parce que comme un père, il sait qu'on en a besoin. De la même manière qu'un parent qui fait bien l'éducation de son enfant, il y a des moments où il sait qu'il va devoir punir, mais il n'en a pas envie du tout et il est malheureux de voir son enfant souffrir, mais il le fait quand même. Et alors là, c'est le cas de la punition, donc on revient à l'histoire du péché, mais c'est pas vrai que pour la punition. Un parent qui emmène son enfant chez le médecin où il va devoir avoir un geste douloureux, une piqûre ou quelque chose comme ça, ça amuse pas le parent non plus. Mais il le fait par amour pour l'enfant, parce qu'il sait que l'enfant en a besoin, donc il l'amène quand même, il lui évite pas la souffrance qu'il pourrait lui éviter. Il pourrait dire, ah non, il aura pas de piqûre. Non, il l'amène, il a la piqûre, mais il reste avec, après il le console. Et c'est exactement ce que fait Dieu avec nous. C'est-à-dire, il sait ce dont on a besoin, il sait que certaines souffrances, ça serait pas bon pour nous qu'il nous les évite, même si on saura peut-être que là-haut pourquoi. Donc il permet qu'on passe par ces souffrances-là. Et pendant qu'on est dedans, en plus, on crie à lui pour lui demander de nous en sortir. Et des fois, il est obligé de pas répondre. Et je suis sûre que c'est dur pour lui de s'empêcher de répondre. Parce qu'il nous aime, on crie à lui, et son cœur de père voudrait nous répondre. Mais il sait que c'est bon pour nous, alors il le fait pas simplement, il promet qu'il est avec nous dans l'épreuve. Il est avec nous, il souffre avec nous, ça lui est pas indifférent. Et puis il a un plan et il sait ce qu'il va en faire. Et du coup, en pensant à ça pendant que je préparais ce partage, j'ai réfléchi à une chose que j'avais jamais vue avant. Je pensais à ce fait que quand on est dans une épreuve et qu'on crie à Dieu, que ça doit être dur pour Dieu de pas nous répondre. Et je me suis juste imaginée ce que Dieu le Père a pu ressentir quand Christ a prié au jardin de Gethsémani. Parce que là, on est exactement dans ce cas-là. Il n'y a pas de péché, évidemment, il n'y a pas de péché dans l'histoire, mais Dieu le Père savait qu'il fallait que son Fils passe par là. Le Fils aussi, il l'acceptait de sa main. Mais ils savaient tous les deux ce que ça représentait. Ils savaient tous les deux que ça voulait dire qu'ils soient pour la première fois pas en communion l'un avec l'autre. Et le fils criait à son père, si seulement la coupe peut passer loin de moi. Et le père a dû dire non. Et je me disais, toutes les fois où on crie à Dieu et où on est parfois désespéré ou même en colère parce qu'il répond pas, juste si on peut repenser à ça, il a même dû ne pas répondre à son propre fils. Et donc s'il le fait pour nous, il sait vraiment pourquoi. On peut vraiment lui faire confiance. Et il s'en fiche pas. C'est pas parce qu'il peut pas faire ou parce qu'il veut pas faire qu'il répond pas. C'est juste parce qu'il sait ce qu'il fait, justement. Ouais, je crois que je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai pas envie qu'on finisse en fontaine. Je voudrais juste finir sur une note un tout petit peu plus légère et pareil, toutes ces semaines là où je pensais à ce partage, il y a une petite chose simple qui s'est passée qui m'a fait penser à la façon dont Dieu nous voit, et ça m'a juste touchée de me dire juste que Dieu n'est pas indifférent à ce qui nous arrive, il n'est pas non plus indifférent à notre présence. C'est-à-dire quand on vient se réunir, ça touche aussi le cœur de Dieu. Il est heureux qu'on soit là, comme si au fur et à mesure qu'on passait la porte pour venir à un culte ou à un temps comme celui-là, il disait « Ah, je voudrais que vous y allez là. Oh, Marie-France, super !» Et à chaque fois, son cœur se réjouit de nous voir. C'est le côté plus positif par rapport à souffrir avec nous, mais je suis sûre que c'est vrai de la même manière, parce que c'est le même cœur, en fait. Et ces derniers temps, je suis allée à une réunion de travail, et le collègue qui l'avait organisé, c'est un jeune papa. Et il n'avait pas de solution pour garder sa fille ce jour-là, donc il a amené sa fille à la réunion de travail. C'était une petite blondinette de 5 ans, toute mimi. Et donc il l'a installée dans un coin de la pièce avec un dessin animé, puis avec son casque, pour qu'elle regarde son dessin animé pendant qu'on faisait notre réunion. Donc c'était rigolo parce qu'on faisait notre réunion super sérieuse, puis de temps en temps on entendait rire parce qu'il y avait un truc drôle sur le dessin animé. Et à un moment j'ai trouvé très très joli. À un moment c'était pas son papa qui parlait, c'était quelqu'un d'autre. Et son papa s'est déplacé de sa chaise et allait lui faire un bisou. Puis il est retourné se rasseoir. Et la petite s'est retournée en disant « Bah pourquoi ?» Et il lui a dit « Parce que je suis content que tu sois là. » Et je me suis dit « Dieu, je suis sûre qu'il est comme ça avec nous en fait. » C'est-à-dire que nous, parfois, on est tellement familiers de « c'est normal, on vient au culte parce que c'est dimanche, on vient à l'étude biblique pour les femmes parce que c'est samedi et c'était sur l'emploi du temps, etc. » Et pour Dieu, c'est tellement pas anodin que tout d'un coup, il s'interrompt dans ce qu'il a à faire. Et il vient nous dire « Je suis content que tu sois là. » Et voilà, je trouvais que ça allait avec.